À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Rada Atem Ganzer, gynécologue obstétricienne, responsable de la maison des femmes de Saint-Denis.
Troisième épisode, combattre les violences faites aux femmes. Bonsoir Rada Atem.
Bonsoir Caroline.
Nous nous sommes quittés sur votre arrivée à l'hôpital de la Fontaine à Saint-Denis en 2010, où vous avez découvert un milieu extrêmement riche, mais riche d'expériences humaines, pas riche socialement. Oui. Manifestement, quand vous êtes arrivée, c'est la chose qui vous a frappé, le niveau social des patients et notamment des patientes que vous voyez. Et accompagnant ce niveau social, grande violence générale. Vous êtes mis à travailler sur ces violences, mais ça n'était pas les premières violences que vous viviez au sein de votre travail. Vous aviez déjà été confronté à des violences. J'aimerais que vous commenciez par nous expliquer de quelles violences il s'agit. Des violences physiques, des violences psychologiques, des violences sexuelles. À quoi avez-vous été confrontée en arrivant à De La Fontaine ?
La première chose qui m'a frappée, c'est effectivement la précarité des gens. Parce que quand on interroge les femmes enceintes, on essaie d'avoir une vision de ce qu'elles sont et pas uniquement de leur ventre avec son petit passager. Donc on s'intéresse aussi bien à ce qu'elles fument, ce qu'elles boivent, leur culture, leur religion par exemple. Ça peut être intéressant s'il faut prendre des décisions d'interruption de grossesse ou autre. Donc moi je pose beaucoup de questions. Et il y a une question qui est d'ailleurs recommandée, qui est les revenus des gens. Leur travail. Et je me souviens de mes premières consultations, à chaque fois je demandais et quelle est votre profession ? La réponse était rien. Et votre mari ? Rien. Et à chaque fin de consultation, je me disais, mais de quoi vivent ces gens ? Comment c'est possible ? Alors je voyais bien qu'ils avaient des allocations, des aides, etc. Mais je trouvais ça assez angoissant, en fait. Et je voyais bien autour de moi le niveau de précarité des patients. C'était très, très clair.
Donc une première violence économique et sociale.
Ah oui, mais vraiment une violence sociale. Et de découvrir aussi que... Où est-ce que vous habitez ? Autre question qu'on pose aux femmes. Ça pouvait être chez un cousin, chez une copine, chez quelqu'un que j'ai rencontré à la gare. Ou dans la rue. Et je me disais, mais on fait quoi quand elles sortent avec le bébé ? C'est pas possible. Et je savais, pour l'avoir expérimenté pendant des années, que trouver une place pour une femme avec son bébé, c'était mission impossible. Il y en a peut-être 30 par an. Et ça a été aussi une violence, pour le coup, pour moi, parce que je n'imaginais pas qu'on pouvait laisser sortir des femmes avec un bébé dans la rue. Il a bien fallu que je m'y fasse, parce qu'il y en avait tellement que je n'avais évidemment aucune solution à leur proposer. Et ensuite, alors, j'ai, avec mes patientes, toujours été à l'écoute des violences qu'elles subissaient chez elles et dont elles voulaient bien me parler quand elles étaient en confiance. Donc ça, c'était pas nouveau. Mais ce qui était nouveau, c'est en fait, déjà, il y avait un problème, c'est pas un problème, mais une multiculturalité très importante. Et on sait très bien qu'il y a des communautés qui sont un peu moins sympas avec les femmes, on va dire. Et beaucoup de jeunes filles d'origine maghrébine, d'Afrique subsaharienne, d'Asie, et qui racontent des familles hyper intrusives, hyper agressives, hyper... Moi, à côté, quand on me cassait les pieds avec les garçons, c'était de la rigolade. Là, c'était mais des violences physiques, de la séquestration. Et puis d'autres femmes qui me racontaient leur enfance, par exemple, dans des familles incestueuses, où on se servait des enfants, parce que c'était comme ça, c'était pratique. Et donc, elles avaient été l'objet sexuel du tonton, du grand-père, du grand-frère, sans que ça choque vraiment, parce que les gens étaient un peu habitués. Et je crois que c'est la somme de toutes ces violences qui m'a un petit peu interpellée. Et vous l'avez dit, l'excision, parce qu'évidemment l'excision, j'avais croisé des femmes excisées dans ma pratique, mais jamais autant. Là, on faisait un accouchement, on se dit, elle est encore excisée, celle-là, c'est pas possible. Jusqu'à ce qu'on ait cette idée de dire, mais en fait, il y en a combien ? Donc on a compté pendant un mois le nombre de femmes excisées, le nombre de femmes pas excisées. On est arrivé à ce chiffre un peu ahurissant de 14%. Alors ça ne veut pas dire que 14% des femmes en France sont excisées, mais dans des régions comme la Seine-Saint-Denis où il y a une très grosse migration, oui, on atteint ces chiffres-là. Ce qui fait, je vous ai dit, on faisait 4700 naissances. 14% de 4700, ça faisait beaucoup, beaucoup de femmes.
Est-ce que vous étiez par ailleurs déjà sensibilisée aux violences faites aux femmes de façon générale dans la société ?
Alors à l'époque, je ne m'étais pas intéressée à la violence de manière académique, donc je ne maîtrisais pas les chiffres que tout le monde connaît aujourd'hui. Mais par contre, pour avoir côtoyé des patientes de tous horizons depuis très longtemps, j'étais très sensibilisée à la violence que je qualifierais de communautaire, par exemple. Je savais qu'il y avait des communautés où être une femme, c'était l'enfer. Et parce que les femmes me le racontaient au travers de toute ma pratique. Par exemple, j'avais des femmes qui venaient, qui avaient 45 ans et qui venaient me supplier de les aider à avoir un enfant, alors que je savais que c'était absolument impossible. Parce que leur belle-mère avait décidé que si elle ne donnait pas un enfant dans l'année à leur fils chéri, il fallait qu'ils se séparent d'elle. Il y en a d'autres qui me racontaient comment elles étaient la bonne de leur belle-mère, par exemple. Comment leur mari n'arrivait pas à quitter maman, écouter tout ce que disait maman, et passer son temps à humilier sa femme pour faire plaisir à sa mère. Tellement de situations comme ça, que je me disais, ça n'est pas possible, ça peut pas durer. Et il faut absolument accompagner ces femmes, parce qu'elles sont tellement... Enfin, c'est des femmes complètement isolées, complètement humiliées. Et ça, oui, ça m'était assez insupportable. Donc j'étais très sensibilisée à toutes ces jeunes filles qui me racontaient... je sais pas, j'ai un souvenir encore surréaliste d'une jeune fille qui voulait avorter. Je dis, mais pourquoi vous voulez avorter ? Elle venait avec son petit ami. Et l'enfant était du petit ami. Ils étaient heureux d'avoir un enfant. Mais la famille, ils n'étaient pas mariés. Il fallait qu'elle avorte pour faire un vrai mariage, et puis après, elle pourrait essayer d'avoir un enfant. Vous imaginez, mais l'absurdité de cet enfermement étriqué dans un raisonnement stupide. Et tout ça m'énervait au plus haut point, bien sûr.
Vous énervez Ahada Atem en tant que femme ou en tant que gynécologue? C'est-à-dire, est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi, finalement, en tant que gynécologue, pourquoi vous intéressez aux violences que subissent les femmes? Parce qu'en tant que femme, on pourrait... C'est-à-dire, vous réagissez, mais en tant que gynécologue.
Mais parce que ce sont mes patientes. Parce que j'ai toujours considéré que mes patientes étaient des êtres humains complexes. Et qu'au-delà de leur grossesse, ou de je ne sais pas quoi, leur cancer du sein, ou peu importe, elles avaient une vie. Et que cette vie... Alors, je savais moins à l'époque combien la violence pouvait impacter la santé. Mais je voyais bien que ça impactait beaucoup de choses. Et ça m'intéressait évidemment, vraiment là pour le coup, en tant que médecin. Et puis, bien sûr, j'avais croisé la violence, on parlait de la guerre, mais j'ai aussi un souvenir, par exemple, de la guerre qui m'avait beaucoup heurté. À l'époque où les Syriens avaient envahi mon village, un petit village dans la montagne, des filles avaient été violées par les miliciens. Et ce qui m'avait vraiment choquée, c'est que ça se racontait sous le manteau, et jamais personne ne se préoccupait de savoir ce que ressentaient ces filles, comment elles allaient, qu'est-ce que cette violence leur avait fait. Et le souci du village, c'était la réputation, et puis qu'elles seraient plus mariables. Et vous imaginez, là encore, qu'est-ce qu'on fait de cette information ? Je veux dire, c'est ta cousine qui a été violée, et tu t'en fous de comment elle va. Donc je pense que tout ça a sédimenté, et finalement à achever de me mettre en mouvement sur cette question des violences qu'on n'apprend pas à la faculté, dont on ne m'avait jamais parlé pendant mes études de médecine, et pas du tout non plus pendant mes études de gynécologie.
Alors je disais que ces chiffres, on allait les donner quand même. Nous sommes en 2022 quand nous enregistrons ces avoies nues, Ahada Atem. Vous disiez que tout le monde les connaît, je ne suis pas si sûre, donc on va le faire, on va rappeler quelques chiffres. Une femme meurt tous les deux jours et demi sous les coups de son conjoint. 40% des violences débutent à la première grossesse. 7% des femmes sont victimes de viols. En France, hein. Dans 86% des cas, c'est par un proche, quelqu'un qu'elles connaissent. Et puis plus largement, 720 millions de filles sont victimes de mariages précoces, c'est 12 millions chaque année, et 130 millions de fillettes sont victimes d'excision.
Ces chiffres-là, même quand je ne les connaissais pas comme ça, mais je voyais bien que chez mes patientes, ces chiffres étaient une réalité. Et si vous le permettez, Caroline, je voudrais rajouter un chiffre qui, moi, m'horrifie. En France, un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. Et je tiens beaucoup à ce chiffre parce que je trouve qu'il est pour moi encore plus horrible que tous les autres, parce que c'est l'enfance, parce qu'on a un devoir de protection des enfants, parce qu'on n'est absolument pas à la hauteur de ce devoir et que c'en est presque indécent. Et aussi parce que l'origine de la violence, elle est là, c'est-à-dire qu'il y en a qui meurent, puis il y en a qui ne meurent pas. Et ceux qui ne meurent pas, en fait, ils sont élevés dans cette violence et ils vont devenir violents ou ils vont devenir victimes. Et si on veut agir, c'est là qu'il faut agir, j'en suis intimement persuadée.
À quoi vous repérez les premiers signes de la violence? Est-ce que ce sont des signes physiques? Est-ce que ce sont des signes psychologiques quand les femmes viennent à vous? Comment ça se manifeste? Il n'y a peut-être pas de règles, hein, mais...
Il n'y a pas de règles. Après, en médecine, on parle de sémiologie, et l'art d'interpréter les signes. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une femme qui vient avec son mari, et c'est le mari qui répond à toutes les questions. Donc c'est lui qui sait quand est-ce qu'elle avait ses dernières règles, est-ce qu'elle avait mal, combien elle avait mal, et elle ne parle pas, alors qu'elle parle français. Hein. Et on comprend en fait avec le temps que s'il est tellement omniprésent et s'il parle tout le temps à sa place, c'est parce qu'il a très peur de ce qu'elle pourrait dire. Et donc, elle n'a pas le droit de parler. Ça, c'est déjà un signe. Donc, tout de suite, ces hommes-là... c'est des agresseurs. Et puis, il y a les femmes qui sont complètement recroquevillées, qui osent à peine vous regarder en face, qui sont... On les voit parfois quand une femme rentre, je me dis, toi, tu vas mal. Toi, tu vas me raconter des trucs parce que je vois bien que tu vas mal. Après, il y a les femmes, quand vous, par exemple, voulez les examiner, vous approchez le spéculum, et vous voyez une rétractation totale du corps, un resserrement du vagin. Et là, vous savez que cette femme a vécu quelque chose dans cet endroit-là, c'est pas normal, etc. Donc, on a plein de petites ouvertures, en fait, pour aborder la question. Ou alors, on fait ce qui est recommandé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on pose frontalement la question. Le dépistage systématique, vous fumez, vous buvez, est-ce que vous avez été déjà confronté à de la violence?
Mais vous dites, vous trouvez que le dépistage des situations de violence est encore insuffisant?
Oui, on n'est pas encore très très nombreux à le faire. Ça commence à se vulgariser, à se démocratiser. Il y a eu beaucoup de communication sur ça. La Haute Autorité de Santé a rédigé des recommandations, énormément de colloques et de formations. Mais ça reste encore... un peu difficile, je crois que c'est aussi le reflet de notre propre malaise, parce que on se dit, quelle boîte de Pandore je vais ouvrir? Qu'est-ce qui va se passer si elle me dit oui? Je sais pas quoi faire. Et si elle se met à pleurer? Et si elle est tellement triste qu'en sortant de mon cabinet, elle se suicide? Et je pense que toutes ces questions-là empêchent encore les médecins d'aborder cette question, alors que quand on le fait, on est frappé par la simplicité avec laquelle les femmes répondent. Ce qui frappe, c'est cette réponse tellement spontanée et fluide. Oui, je vous raconte. Et ensuite, 9 fois sur 10, j'ai jamais parlé de ça à personne. Et vous pouvez pas savoir le bien que ça me fait d'en parler, même si ça s'est passé il y a 60 ans. C'est impressionnant.
Est-ce que vous trouvez que depuis 40 ans, on a malgré tout fait des progrès dans la lutte contre les violences faites aux femmes?
Je pense, alors je dirais pas en 40 ans, mais je pense que les 20 dernières années ont été... il y a vraiment une accélération dans la prise de conscience. Et aussi dans le fait que on est sorti de « ça relève de l'intime et ça ne nous regarde pas », qui était quand même le grand concept. C'est-à-dire ce qui se passe dans l'intimité des foyers ne regarde que l'intimité des foyers. Aujourd'hui, on sait que ça regarde tout le monde, les voisins, la police... parce qu'on sait les conséquences. Et ça, je crois que c'est la plus grande révolution culturelle, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'avant, c'était le devoir conjugal, la puissance paternelle, et les mots ont du sens, les mots façonnent notre façon de penser. Si on vous dit le devoir conjugal, vous ne mettez pas immédiatement le mot viol à côté. Si on vous dit que le devoir conjugal n'existe pas et qu'un homme qui se sert de sa femme quand il en a envie, de préférence quand elle n'a pas envie, parce que lui, ce qui lui fait plaisir, c'est qu'elle est mal, c'est qu'elle n'ait pas de plaisir, eh bien là, le mot viol prend tout son sens et ça change tout. Il y a 30 ans, jamais une femme n'aurait dit « mon mari me viole ». Et j'obéis. Et je pense que ça a amené d'autres façons de penser. C'est-à-dire, bah, puisqu'il n'a pas le droit de me violer, bah, il n'a pas non plus le droit de m'isoler de ma famille, de me piquer mon argent, de m'empêcher de travailler, de me rabaisser en permanence devant les enfants. Et je pense que petit à petit, ces choses-là sont devenues insupportables et sont devenues aussi dissibles. Et on est sorti de l'indicible. Et je crois que c'est ça la grande, grande révolution.
Vous parlez de l'importance des mots. Le mot féminicide est une avancée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, selon vous, Rada Hatem ?
Oui, on a beaucoup discuté. Est-ce qu'il fallait inventer ce nouveau mot ou pas ? Et à l'usage, je pense que là encore, c'est comme devoir conjugal. Ça fixe les choses. Un féminicide, c'est pas une femme qui est morte dans une fusillade, comme aurait pu mourir un homme. C'est pas une femme qui a reçu une bombe sur la tête. C'est une femme qui a été tuée parce qu'elle était une femme. Et le fait d'identifier cette sous-population et de la compter finalement, même si les comptes sont pas toujours exacts, parce que parfois on ne sait pas si c'est par hasard ou parce que c'était une femme. Rarement, eh bien ça a permis aussi aux gens de prendre conscience que c'était pas qu'une histoire d'amour ou de jalousie ou de je sais pas quoi. C'était tellement systématique, systémique, toujours dans les mêmes circonstances. Très souvent, les femmes sont tuées au moment où elles disent « je m'en vais, je n'en peux plus », ou bien à un moment où elles s'échangent les enfants avec le mari. C'est un moment où elles sont en fragilité. Et ces modes opératoires répétitifs, finalement, nous ont amené à comprendre que oui, c'était un vrai sujet et qu'il fallait le traiter comme tel.
Alors parlons de vous par rapport à ça, vous vraiment comme médecin, vous comme praticienne, comme gynécologue obstétricienne, est-ce que ça change votre rapport à votre métier, le fait de voir autant de violence ?
Je pense que ce qui est différent, c'est quand vous vous occupez pratiquement exclusivement de femmes qui ont subi des violences. C'est la problématique des maisons des femmes, c'est-à-dire que ces professionnels-là reçoivent tout le temps des femmes qui ont vécu des violences, parfois très graves, et que le fait d'être soumis à ces récits de violences finit par provoquer une violence sur les soignants. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut être très très vigilant. Quand vous êtes un médecin normal, entre guillemets, même si vous vous attachez à dépister la violence et vous allez en trouver, une femme sur trois, ça fait beaucoup. Et si vous interrogez vos hommes aussi, si vous êtes généraliste, vous allez trouver de la violence. Les hommes ont subi plus de violences sexuelles dans leur enfance que les femmes. Et donc, vous allez rencontrer, mais ça ne sera pas à 100% de votre consultation. Là où c'est difficile, c'est quand c'est tout le temps, tous les jours. Moi, j'ai changé de métier. Aujourd'hui, je ne fais plus d'accouchement et je m'occupe évidemment quasi exclusivement de la maison des femmes. Sauf que j'ai de la chance parce que j'ai un métier très, très divers. Je dois lever des fonds, je dois communiquer, je dois faire du plaidoyer, je dois assurer aussi mes consultations, je dois opérer les femmes excisées. Et ça me permet, je pense, de rester assez sereine. Je pense que d'être confrontée 5 jours sur 7 à la violence matin et après-midi est compliqué. Et donc il faut que dans ces équipes, les gens aient des activités à côté, comme faire de la formation, même si c'est pour aller éduquer à la violence des collègues, des policiers ou je ne sais quoi. Mais de pouvoir prendre un peu de recul, faire autre chose, ça me paraît essentiel.
Malgré tout, quand vous faisiez encore, quand vous pratiquiez encore des accouchements, vous vous étiez formée à la chirurgie réparatrice avec le docteur Pierre Foldès, puisqu'au sein de la maternité de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, vous avez créé un service de reconstruction et de réparation des mutilations sexuelles.
Oui, mais là encore, c'était un service de soins. Et les femmes qui ont été excisées, il y a toutes sortes de milieux sociaux, d'histoires de vie. Il y a des femmes qui n'ont connu que de la violence, des femmes qui ont été excisées petites, mariées de force, violées par leurs cousins, violées par leur mari, frappées par leur mari, violées par le passeur, on a ces histoires-là. Il y en a des jeunes filles qui sont banquières, avocates ou médecins et qui ont eu la malchance de naître en France, mais étant originaires d'un pays d'Afrique subsaharienne, d'être retournées voir leur grand-mère à un an et de se faire exciser quasiment par surprise, dont elles ont très peu de souvenirs. C'est pas exactement le même vécu de violence.
C'est développé en parallèle depuis quelques années, alors je ne sais pas si c'est 10, 20, 30 ou 40 ans, vous allez nous le dire, ce qu'on appelle la médecine de la violence. Alors c'est quoi cette médecine de la violence déjà ?
Alors en fait, c'est l'OMS, je crois que c'était en 79, qui a vraiment écrit que la violence avait des conséquences sur la santé, telles que ça devenait un vrai problème de santé publique et qu'il fallait s'en occuper de cette manière-là. Et il y a eu, mais par exemple, à Genève, un département de médecine de la violence parce que on a commencé à prendre conscience de ce que ça faisait aux humains, à leurs femmes, hommes et enfants, et toute violence confondue. C'est-à-dire que si vous êtes un vétéran de la guerre du Vietnam, vous avez été confronté à des scènes de violence extrêmes qui font que vous êtes dans un état de stress post-traumatique, comme une femme que son mari a tenté d'étrangler trois fois le mois dernier. Et c'est pareil pour les enfants. Donc on sait aujourd'hui, avec des imageries, qu'au niveau du cerveau, il y a des modifications dans les IRM. Si vous avez subi de la violence une fois ou de manière répétée, si vous avez des traumas simples ou des traumas complexes, on sait qu'il y a des maladies chroniques, comme le diabète, l'hypertension, certains cancers, l'endométriose, des maladies immunologiques qui sont liées à toutes ces hormones de stress qu'on sécrète quand on a peur. Et tout ça, on ne le savait pas. Moi, je ne l'ai jamais appris. Je l'ai découvert après. Et je pense que ce sont ces travaux qui ont permis de mieux comprendre l'impact. Il y a eu des études longitudinales extrêmement importantes, notamment l'étude ACE, Adverse Childhood Experience, qui montre que des enfants qui ont été confrontés à des événements violents ont plus de chances d'avoir des maladies graves, de se suicider, de mourir jeune, etc. Donc on a petit à petit suffisamment de données pour pouvoir dire oui, c'est scientifiquement prouvé, c'est un sujet pour la santé et il faut qu'on s'en occupe.
Et dans votre domaine, ça se traduit comment, cette médecine de la violence? Justement par la médecine de la réparation, enfin, la reconstruction déjà, et puis la réparation psychologique?
En fait, cette médecine-là, elle est d'abord dans l'évaluation de la santé des humains que nous prenons en charge.
Il y a un outil, par exemple, qui est le violentomètre.
Oui, alors l'outil violentomètre, c'est un outil pédagogique. Mais si je prends l'exemple des petits, par exemple, on sait aujourd'hui qu'un enfant qui est privé de soins, pas forcément malnutri, mais par exemple que sa mère ne touche pas, ne caresse pas, ne considère pas, ne va pas grandir. Et que si vous le mettez dans un environnement où il a ça, eh ben il va brutalement rattraper sa croissance. Donc vous voyez, ça c'est déjà une conséquence sur la santé de la négligence. La négligence est une violence. Et on le sait aussi pour plein d'autres situations. Donc on sait que les femmes qui, par exemple, ne font pas attention à leur santé parce qu'elles sont prises dans la violence, vont avoir une santé dégradée, ne vont pas consulter, ne vont pas prendre leurs médicaments. Il y a plein de conséquences de la violence. Donc la médecine de la violence, c'est celle qui s'intéresse aux conséquences et qui essaye de justement lutter contre ces conséquences, avec une meilleure prise en charge, avec une meilleure attention. Et ensuite, il y a la psychologie, aujourd'hui, qui a fait beaucoup de progrès, prendre en charge le trauma de la violence. Et puis, il y a l'éducation, faire comprendre aux gens ce qu'ils vivent. Et le violentomètre est un outil très astucieux, qui nous vient d'Espagne, je crois, du Mexique, je ne sais plus, et qui permet à des jeunes, notamment, de comprendre qu'ils ne sont pas dans une relation saine. Et le violentomètre peut aussi s'appliquer à des relations amicales, puisqu'il vous permet de savoir, est-ce que je suis en confiance avec cette personne? Est-ce qu'elle a une emprise sur moi? Est-ce qu'elle veut me contrôler tout le temps? Est-ce qu'elle veut m'isoler? Est-ce qu'elle me demande de faire des trucs que sexuellement j'ai pas envie de faire? Enfin, il y a plein de questions. Et c'est rouge, orange, vert. Si c'est vert, votre relation est saine et vous pouvez continuer. Si c'est orange, faites attention. Et si c'est rouge, partez.
Puisqu'on parle des violences faites aux femmes, je pense qu'il est important quand même de le mentionner à l'autre bout du spectre. Parfois, il existe des violences. On a vu, par exemple, une mise en examen pour viol sur mineur d'un chef de service de gynécologie dans un hôpital. On a parlé depuis quelques années de maltraitance et de violence obstétricale. Une charte de bonnes pratiques a été publiée par les professionnels en 2021. Quelle place accordez-vous à ce sujet-là ?
La violence dans les soins, je pense qu'elle a toujours existé et qu'elle n'est pas l'apanage de la gynécologie obstétrique. C'est-à-dire toute position de pouvoir et la position entre le soignant et le soigné est malheureusement asymétrique. Il y en a un qui sait, il y en a un qui peut et l'autre pas. Peut conduire à de la violence. Et cette violence, elle peut s'exercer à tous les échelons. Je pense par exemple à des secrétaires que je peux entendre parfois en train de houspiller une patiente parce que elle n'est pas venue avec le courrier du médecin traitant et en train de hurler au sein de la consultation. Et venez pourquoi ? Pour une IVG ? C'est hyper maltraitant. Et il n'y a pas besoin de violer pour aller à ce niveau-là de violence. Après, soigner peut conduire à des gestes inadaptés. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est qu'on différencie bien les gens qui sont violents parce qu'il y a une volonté, ceux qui violent leurs patients, et il n'y a pas que des gynécos, ce chirurgien-là qui violait les enfants, filles et garçons, avant de les opérer, ça c'est quand même assez incroyable. Et puis il y a le soin où il n'y a pas d'intention de nuire. Je pense par exemple à tous ces gynécologues qui doivent mettre un spéculum parce que c'est difficile de faire un frottis sans mettre un spéculum et qui sont accusés de viol parce que ils n'ont pas expliqué suffisamment à une patiente, parce qu'ils n'ont pas pris le temps, parce qu'ils n'ont pas écouté lorsqu'elle a dit j'ai mal, je voudrais que vous arrêtiez. Partie dans leur geste. Je pense qu'il faut faire une nuance entre un geste dont l'intention est de soigner et un geste dont l'intention est d'être maltraitant. Nous devons travailler beaucoup, nous, sur nos pratiques pour justement supprimer toutes les situations où on pourrait ne pas être violent. Par exemple, on sait aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de mettre un spéculum tout le temps, qu'on n'a pas forcément besoin de mettre nos doigts dans le vagin tout le temps. Mais parfois, il faut le faire et c'est utile. Mais que la manière dont on va l'expliciter aux femmes, dont on va les laisser nous dire qu'elles sont prêtes, qu'elles sont d'accord, qu'on peut y aller, ça va tout changer. Et ça, c'est quelque chose que les médecins doivent comprendre et s'appliquer. Mais après, il faut aussi expliquer aux femmes que parfois, c'est pas de la violence, c'est que nous devons faire ça. Je pense notamment à cette énorme polémique qu'il y a eu autour de l'épisiotomie. L'épisiotomie, quand moi j'étais bébé gynéco, si on n'en faisait pas, on se faisait engueuler. Donc on était élevé dans l'idée que c'était une pratique vertueuse, qu'elle rendait service aux femmes, qu'elle protégeait leur périnée, qu'elle les empêchait de se faire pipi dessus par la suite. Et donc c'était le dogme. Et on a découvert, 30 ans après, que non, c'était faux. Et donc on a petit à petit changé nos pratiques. Et on s'est mis à accuser les gynécos de faire des mutilations sexuelles en faisant des épisiotomies. Et là, je me dis qu'on est allé peut-être un petit peu trop loin et qu'il faudrait ramener le curseur à quelque chose d'un peu plus modéré.
Merci Rada Hatem. On se retrouve demain pour la quatrième émission de cette série. On va changer d'endroit puisque nous étions chez vous, à Vincennes, et que nous allons aller à Saint-Denis sur votre lieu de travail, à la Maison des Femmes, pour une immersion à la Maison des Femmes avec vous. À demain.
À demain. Je serai ravie de vous y accueillir.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Virginie Lorda, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.